Son d'avril présente
Cap Ferret musical.
Une série de podcasts animés par le journaliste Stéphane Friedrich et ses invités qui portent un regard original sur la musique. Certes, on vous parle de compositeurs et d'interprètes présents durant le festival, mais d'une manière différente, parce que la musique se nourrit aussi de tous les talents qui nous rejoignent pour parler de leur passion.
Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau podcast de la 13e édition du Cap Ferret Music Festival. Nous sommes ici en plein air, ou plus exactement dans une cabane tout au bout du Cap Ferret. Je ne dirai absolument pas où ce lieu se trouve, car c'est un lieu absolument magique, je ne dirai pas, même sous la torture. Cette édition du festival rend hommage aux forêts, à la mise en valeur d'un patrimoine naturel exceptionnel, ici dans le bassin d'Arcachon. Comment ne pas être fasciné par les paysages qui nous entourent, mais de quelle manière aussi, et ce sera l'objet de ce débat, ces paysages nourrissent-ils le silence et l'imaginaire d'un écrivain, le travail du matériau brut, du bois chez un luthier, le travail du son chez une pianiste. Trois regards donc durant les longues minutes que nous avons passées ensemble. Et tout d'abord, pour vous présenter nos invités, nous accueillons la pianiste Célia Onetto Ben Saïd. Bonjour Célia.
Bonjour.
Jeune pianiste qui débute une fort belle carrière et qui est l'une des invitées du festival, formée au Conservatoire de Paris, à l'École normale de musique de Paris. Elle est lauréate de nombreux concours internationaux et son répertoire, ses premiers disques témoignent d'une personnalité pour le moins originale. Nous allons y revenir. En correspondance au son, nous aurons la parole de l'écrivain Guy Reichenmann. Bonjour Guy Reichenmann.
Bonjour Stéphane.
Poète, romancier, homme de télévision, il fut aussi sportif de haut niveau. Ce résident au Cap Ferret a créé au fil de ses livres un étonnant personnage. Il joue avec un certain nombre de dissonances littéraires et un sens du rythme pour le moins affirmé. Enfin, nous accueillons le luthier bordelais Gilles Brahem. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Du violon à la contrebasse, il restaure, répare, crée des instruments de musique de grande valeur. Vous avez tous trois, je pense, un premier point de correspondance, celui de gérer un temps qui vous appartient, un temps indéfini, ou plutôt qui ne se définit que par le résultat. Le concert, l'édition d'un nouvel ouvrage, l'achèvement d'un instrument. Gilles Brahem, tout d'abord, combien de temps pour réaliser un violon, un violoncelle ? Cela se chiffre-t-il ?
Ça peut se chiffrer schématiquement pour faire un violon sans le vernis, ce qu'on appelle un violon en blanc. Et il faut compter au moins un mois de travail intensif pour faire un violon. Un violoncelle un petit peu plus et une contrebasse encore plus.
Pour une seule personne ? Ou bien est-ce qu'il y a différentes spécialités ? C'est-à-dire qu'on aborde...
Le luthier fait tout de A à Z.
Fait tout de A à Z. Est-ce qu'il y a également des gestes qui vous font douter lorsque l'on tient un ciseau à bois? Je m'explique. Il y a certains métiers, par exemple le métier de diamantaire, où on commence, notamment à Anvers par exemple. Les jeunes diamantaires commencent avec des diamants bruts et ils vont devoir tailler la pierre. Et ils vont simplement avoir un seul geste à faire, un geste éminemment difficile puisque de ce geste va découler le prix du ou des diamants. Ils ne peuvent pas se tromper. J'ai même des amis d'ailleurs qui ont attendu 8 jours avant de faire le geste fatidique. Lorsque vous êtes avec votre ciseau à bois et que vous travaillez l'instrument, est-ce qu'il y a des gestes à ne pas faire, des gestes qui risquent véritablement d'altérer la qualité du violon ?
Alors le ciseau à bois, on ne l'utilise pas trop. On utilise plutôt des gouges, des rabots et de ce qu'on appelle des canifs. C'est comme des couteaux, si vous voulez, des petits canifs. Alors des gestes qui pourraient être négatifs pour l'instrument, il y en a beaucoup. Lorsqu'on fait le filetage, par exemple, c'est-à-dire quand on regarde un violon, vous avez un petit liseré noir et blanc qui est tout autour.
Oui.
Ça s'appelle le filetage. Si on met un coup de canif de trop, on va avoir on va avoir quelque chose qui sera moche. Donc de toute façon, esthétiquement, ça nuira au moins à l'esthétique de l'instrument. Après, quand on débite une table ou un fond, c'est-à-dire un dos ou une table,
oui.
On utilise des gouges de diverses grosseurs. Et quand on débite, on a ce qu'on appelle la gouge à ébaucher. Et là, il faut quand même maîtriser son geste, parce que si on va un peu trop profond, on peut traverser carrément, quoi. Donc, ça, en général, c'est des erreurs d'apprenti. Hein. Ça, on ne les fait plus après.
Et à quel moment on ne devient plus apprenti ? Au bout de combien de temps ?
Justement, quand on commence à savoir un peu.
Et oui, mais alors ça, c'est le résultat du canon et de l'obus de canon, ça.
Oui.
Combien de temps faut-il pour former un bon apprenti en général ?
Un bon apprenti, enfin, pour avoir un niveau de début de carrière, il faut compter 3 ans, à peu près.
Et donc, pour avoir fait le tour de l'ensemble de la profession. Mais attention !
Non, pas le tour de l'ensemble de la profession. On sait faire un violon de façon totalement autonome au bout de 3 ans. On ne fait pas encore des chefs-d'œuvre, mais on sait fabriquer un instrument.
D'accord. Et si vous allez confier, si vous avez envie de confier cet instrument, ou un autre instrument plus exactement, à votre apprenti, c'est-à-dire un alto ou un violoncelle ?
Alors ça, c'est autre chose. Si confier un instrument, si un musicien, par exemple, confie un instrument à un luthier, il va le confier pour le réglage ou pour la restauration, si l'instrument a subi des dommages. Donc là, c'est beaucoup plus long. C'est-à-dire, déjà, il y a la notion de respect de l'objet. Donc ça, c'est lent à apprendre. Enfin, il faut l'avoir un petit peu dans l'esprit dès le départ, le respect du patrimoine. Et après, il y a beaucoup de gestes différents. C'est jamais deux fois la même chose. On n'est jamais deux fois sur le même violon. Donc chaque fois, ce sont des gestes un petit peu à réadapter. Je ne dirais pas réapprendre, mais réadapter. Et là, il faut des années. Pour être un bon restaurateur, il faut des années de plus. Et généralement, qui dit bon restaurateur, dit un petit peu aussi des notions d'expertise. Parce que pour être bon restaurateur, il faut savoir analyser l'instrument et essayer de trouver quel est l'auteur, ou au moins l'école et l'époque.
Mais pour être expert, ça demande un temps absolument fou.
C'est toute une vie. L'expertise, c'est à remettre en question tout le temps. Alors, on a des bases, parce qu'on a l'habitude de travailler sur certains instruments, mais il nous arrive de temps en temps des instruments qu'on n'a jamais vus, et on est obligé de faire des recherches.
C'est un petit peu, Célia Onetto Ben Saïd, ce que m'avait dit Aldo Ciccolini à propos de certaines œuvres, notamment par exemple les dernières sonates de Beethoven. On commence à les jouer, on commence à les travailler à l'âge de 14 ans, et on va vraiment les jouer à l'âge de 60 ans, non ?
Oui, il y a des œuvres qui demandent d'être mûries, d'être digérées, remises en bouche, redigérées. On devient vraiment une sorte d'estomac d'œuvres, et pour pouvoir les rendre en se sentant légitime dedans. Ça dépend des interprètes et ça dépend des répertoires. Il y a des interprètes qui vont se sentir très jeunes de livrer l'opus 11 de Beethoven, pour rester là-dessus. Et puis il y en a d'autres, ils préféreront attendre leurs 60e année. Donc ça, c'est aussi une question de sensibilité. Le répertoire est tellement immense, on ne peut pas être en immédiateté avec tous les répertoires tout de suite. Il faut savoir aussi qui on est et avec quelle sensibilité on résonne tout de suite. Et avec quelle sensibilité, il faut plus de temps.
En clair, vous me dites, on joue comme on est.
Oui, et surtout, plus on progresse, plus on est fort, plus on joue comme on est. C'est ça, la liberté de l'artiste, est de pouvoir jouer comme il est. Mais ça demande, comme le disait mon collègue luthier, mais ça demande des années, en fait, de travail technique, de travail d'écoute du son qu'on produit, de travail d'analyse des partitions qu'on joue, de connaissances culturelles sur les esthétiques, les différentes époques. Voilà, enfin, quand on est pianiste, on est face à un répertoire
considérable.
Ouais, qui parcourt les siècles, donc et qui continue de s'écrire en plus. Donc il faut s'armer de patience, et c'est aussi comme ça qu'on grandit et qu'on s'élève intérieurement. C'est ça qui est passionnant.
Alors justement, il se trouve que je vous connais depuis quelques années, je sais le répertoire que vous avez joué, notamment durant tout votre apprentissage, mais je crois qu'on apprend toute sa vie les grandes œuvres. Et là, vous avez choisi d'enregistrer, ça fait d'ailleurs plusieurs disques, vous êtes sur des répertoires que je dirais décalés, mais passionnants, et en l'occurrence là, un répertoire de découverte avec l'œuvre de Marie Jaël, qui a été une immense pédagogue de la fin du siècle, très grande musicienne. Alors, est-ce que l'on va vers ce choix de répertoire tout simplement parce que vous avez peut-être eu un coup de foudre pour cette œuvre ? En l'occurrence, les œuvres que vous avez enregistrées, c'est un immense cycle, un triptyque, ce qu'on entend dans l'enfer, le purgatoire et le paradis. Mais vous avez enregistré donc cet album sur le label Présence Compositrice. Mmh. Comment vient-on vers ce type de répertoire ?
La vie a fait que je me suis rendu compte en 2017 par une compositrice vivante qui s'appelle Camille Pépin, qui a une trentaine d'années. Je me suis rendu compte que cette compositrice dont je créais les œuvres, on la ramenait toujours à son sexe de femme, comme si c'était un événement. Alors que pour moi, c'était quelqu'un qui écrivait de la musique. Je m'en fichais quand je jouais ses œuvres, que ce soit une femme ou un homme. Et du coup, une fois que je fais ce constat-là, je me dis, mais en fait, si on lui dit ça, c'est parce qu'on croit qu'il n'y a jamais eu de compositrice. Et en fait, c'est vrai que moi, du haut de mes 25 ans à l'époque, jamais, quasiment jamais, mais en vérité, c'est un grand jamais en l'occurrence, je n'ai travaillé lors de mes concours, lors de mes études, nombreuses en plus, vraiment, j'ai fait 5 classes au Conservatoire National de Paris, j'ai fait Conservatoire de Région à Paris avant, enfin, j'en ai fait des concours internationaux avec des répertoires imposés, jamais un nom de compositrice est sorti, au point qu'on se dit, si on ne les joue pas, c'est que c'est pas bon, voilà, c'est un répertoire qui n'est pas de qualité, donc on ne le joue pas. Et en fait, du coup, vient la question d'aller un petit peu au-delà de cette idée reçue, de creuser. Donc pour cela, une musique, tant qu'elle est juste sur un papier, elle est un petit peu morte. Malheureusement, un compositeur, une compositrice ne compose pas pour que la partition dorme dans une bibliothèque. On ne lit pas des partitions, on les écoute. Et on regarde une œuvre d'art, mais on écoute une œuvre de musique. On lit un livre, mais on écoute une œuvre de musique. Et donc, pour cela, donc, il faut aller voir ces partitions, les déchiffrer et découvrir lesquelles sont belles, lesquelles sont oubliées. Et parfois, il faut qu'elles le restent. Et puis, parfois, il y en a. Et voilà. Et donc, là-dessus, sur ce chemin-là, je découvre en 2019 le cycle de Marie-Jaël sur la Divine Comédie. Oui. Donc, déjà, la référence littéraire est dingue. C'est assez peu commun au répertoire pianistique d'avoir un cycle de plus d'une heure. C'est vraiment quelque chose de très que les chanteurs ont la chance de parcourir dans les grands cycles, voyages d'hiver, bien l'amour sûr. Et la vie d'une femme. Pianiste sans texte, on se sent très pauvre de ça. Enfin, moi, je suis jalouse
des
chanteurs.
Que vous êtes, d'autant plus que vous êtes issu d'une famille de comédiens et qu'accessoirement, le théâtre a une importance très, très grande chez vous, la littérature.
Oui,
aussi.
La narration, les poèmes, c'est quelque chose qui me nourrit. Et même quand il n'y en a pas en musique, je m'en invente. Ça fait partie de mon travail personnel pour justement digérer une œuvre, comme je le disais tout à l'heure. Et donc c'est vrai que quand c'est proposé et imaginé par le compositeur ou la compositrice en l'occurrence elle-même, déjà ça suscite une grande curiosité. Marie-Jaël en plus en l'occurrence c'était une un peu plus jeune mais contemporaine de Liszt. Ils ont une relation vraiment intéressante tous les deux.
Artistiquement.
Elle a été la secrétaire de Liszt d'ailleurs à la fin de sa vie. Il lui a dédié plusieurs œuvres. Elle avait quand même l'intégralité des œuvres pour piano liste dans les doigts. Il faut imaginer ce que ça représente en termes de capacité, de répertoire, de virtuosité. C'était une sorte, je pense, de Martha Argerich de son temps. Elle a joué, comme je lis beaucoup sur elle, elle a joué dans une seule journée les 5 concertos de Saint-Saëns aussi. Je veux dire, c'est des défis qu'on ne proposerait plus aujourd'hui d'ailleurs, parce que c'est trop dense à même à écouter. Mais donc tout ça pour dire que donc Liszt, elle connaît la pièce après la lecture de Dante de Liszt qu'il a composée avant qu'elle s'attaque à ce cycle elle-même. Et donc la lecture qu'elle en fait, on est dans les années 1890, elle est tout à fait singulière. L'enfer et le purgatoire font vraiment passer l'interprète à l'enfer et au purgatoire proprement parlé. Oui. La virtuosité est extrême, balaye à peu près toutes les difficultés techniques qu'on peut avoir au piano, les tierces, les octaves, les déplacements, les chromatismes, la mémoire, les arpèges. Donc déjà, c'est très passionnant parce que tout simplement, c'est un répertoire qui fait progresser. Et puis comme la plupart des grandes études des grands compositeurs, je pourrais parler de Liszt, Debussy, Chopin, ce ne sont pas que des études de virtuosité, il y a vraiment...
Une matière artistique.
Voilà, il y a vraiment une matière artistique.
À travailler.
Des thèmes, notamment le thème du Dies Irae, le thème de la croix qui traverse tout le cycle et donc qui crée aussi une cohérence. Et puis sa lecture du paradis qui est un paradis... très calme, très serein, on est dans une paix retrouvée, comme si on était dans une sortie de corps. Moi, j'ai toujours, c'est un peu cette lecture de son paradis. On est loin d'un paradis festif où tout d'un coup, c'est une explosion. Là, on est vraiment dans un paradis épuré, presque zen. Et ça, c'est assez original aussi, à ce moment-là, de décrire ça comme musique pour lire le paradis. Et puis dans son paradis, et puis dans tout ça, il y a, je le disais, on est dans les années 1890, et pourtant, le XXe siècle, elle l'annonce du Scriabine, elle annonce du Debussy, les pédalisations Merci. Qu'elle fait sont extrêmement visionnaires. Et donc du coup, tout ça fait de ce cycle, à mon sens, un cycle génial, donc que j'ai envie de contribuer à diffuser en tant qu'interprète.
Ça, voilà. Je peux vous comprendre, d'autant plus qu'il y a toujours cette dimension littéraire qui est absolument essentielle. Guy Reichenmann, vous avez, en tant que, là c'est vraiment à l'écrivain auquel je m'adresse, difficile d'ailleurs parce que de faire même de tenter de faire, c'est un peu audacieux, un portrait de vous, parce que on a l'impression que toutes vos activités, même qui semblent éloignées, y compris à la télévision, nourrissent finalement une forme d'imaginaire. Lorsque vous avez constitué ce personnage, on a l'impression que ce personnage, votre personnage, puisqu'il s'agit d'Anselm Willock, qui est ce policier tout à fait étonnant, et là nous sommes complètement au Cap Ferret, dans ce bassin d'Arcachon, eh bien ce personnage se constitue d'une sorte de mosaïque. On le construit un peu comme peut le construire un pianiste, un interprète, lorsqu'il met bout à bout des morceaux et lui donne une unité. Quelle est l'unité aujourd'hui ? Quelle est la vie aujourd'hui ? Où en est M. Anselm Willock ? Comment le faites-vous vivre ?
Il va très bien, parce que je vais très bien moi aussi. Donc,
il
est en pleine forme. Et, je vous écoute et c'est vrai que, en fait, on écrit ou on joue ou on construit ce que l'on aime, hein, ce que l'on connaît. L'imaginaire, pour moi, c'est très simple, c'est mettre la réalité un petit peu à l'envers. Déjà, si vous la mettez un petit peu à l'envers, on tombe dans l'imaginaire très vite. Et pour rebondir sur le paradis, c'est vrai que le paradis, il n'est pas lumineux. Moi, j'ai écrit justement une série de nouvelles qui s'appelle « Ticket pour le paradis ». Et évidemment, je traite le paradis à ma façon, qui n'a absolument rien d'attractif. Du moins au départ, on pense que le paradis... on peut en débattre, parce que
La notion de paradis. Est
une... Oui, mais enfin, j'ai bien aimé ce que vous disiez sur le paradis. Et quand vous m'avez invité, là, j'étais un peu inquiet parce que le violon, j'y connais rien. Alors, j'ai quand même lu hier dans la journée La forêt au violon, où il y a eu quand même notre ami Stradivari au départ qui s'est fait appeler Stradivarius. Et qui m'a appris beaucoup de choses. Et quand je vous écoute, j'écoute le luthier, bien sûr, ça me commence un petit peu à me parler. J'espère que je n'oublierai pas ce livre qui est formidable. J'aurais dû lire La forêt au piano, mais je n'ai pas eu le temps, hein, parce que je ne suis pas un musicien. Moi, je suis un joueur de rock. Hein, alors, vous voyez, c'est complètement différent. Quoique, bien
sûr,
il y a des accords, il y a des bien rythmes, et il vaut mieux tenir le rythme. Hein. Alors, Anselme Villock, en effet, c'est... C'est un petit peu moi, bien entendu, parce que je voulais créer un personnage un peu atypique, non pas que je sois carrément atypique, mais c'est vrai que j'ai eu quand même pas 1000 vies, mais au moins 990. Donc ça nourrit bien justement évidemment. Le fameux imaginaire que je récupère de ma vie et que je mets un petit peu dans tous les sens. Ce qui fait, au bout d'un moment, en effet, on peut se trouver un petit peu perdu dans ce personnage. Mais il est bien présent et je suis toujours avec lui. Quand je suis, ce matin, j'étais à Arcachon en dédicace, j'ai discuté avec des gens. Et le fait de parler avec des gens, ça m'a donné de nouvelles idées, hein, en permanence. C'est-à-dire qu'en fait, on n'invente rien, on écoute. Alors, je ne sais pas si le pianiste ou le luthier doit écouter. Tout à l'heure, j'entendais qu'il fallait 30 jours pour faire un violon. Bon, Stradivarius mettait un petit peu plus, mais l'époque était peut-être moins facile. Hein. Bon, pour le piano, là, n'en parlons pas, c'est un travail de... Alors, je ne dirais pas d'enfer, parce qu'on parle du paradis, mais enfin, il faut quand même beaucoup travailler. Alors que l'écriture, c'est plus relax, je dirais. Parce qu'on n'a pas de... Bon, la fausse note n'existe pas, puisqu'on peut la corriger très vite. Hein. On n'est pas en concert, on n'est pas en prise directe avec le lecteur. Mais on aime bien être lu. Vous aimez bien être écouté. Les violons aiment bien être également avoir une bonne qualité. Et j'ai lu, en effet, que des qualités pouvaient être d'une diversité incroyable, hein, en fonction, bien sûr, de l'artisan. Eh bien, pour l'écriture, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'il faut remettre sur l'établi. Et puis, à la limite, je pense qu'on abandonne. En fait, il faut abandonner au bout d'un moment, hein, parce que sinon, on n'en sort plus. Quoi.
Lâcher donc, prise, c'est ça.
Il faut l'abandonner, oui. En fait, on ne finit pas un livre, on l'abandonne. Hein. C'est pas moi qui ai dit ça. Je ne sais plus qui a dit ça, mais. Et pas à propos d'un livre, je crois que c'était à propos d'un tableau. Voilà, on l'abandonne. Donc, pour revenir donc à notre ami oui. Anselme Villock, eh bien, en effet, c'est un petit peu moi avec mes pérégrinations un peu poétiques, hein, parce que j'ai écrit beaucoup de textes oui. poétiques auparavant. Et d'ailleurs, dans tous mes textes, je mets des poèmes. Alors, et ce sont des romans dits noirs, dans lesquels il n'y a pas un coup de feu, une goutte de sang et un acte de violence. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a ? Mais si vous réfléchissez un petit peu, hors la violence, le sang... Et les courses-poursuites, il y a pas mal de choses, en fait, si on regarde bien. En fait, il y a tout, en fait. Donc, je fais des polars avec tout le reste.
Hein. Voilà, c'est une déambulation, finalement, d'un poète. Vous êtes très schubertien dans l'âme, finalement.
C'est toute une... Alors, Schubert, je ne suis pas un spécialiste, encore une fois, mais...
Non, ce que je veux dire, c'est que le but, l'objectif à atteindre n'est pas l'essentiel, c'est le chemin pour le prendre.
C'est le chemin, qui est important. Voilà. C'est le chemin, ça veut dire que l'enquête dans mes textes, je ne dis pas que je m'en fiche, mais c'est pas l'importance. L'important, c'est le thème. Voilà. C'est le thème.
On a la précision de l'artisanat. Et c'est vrai que le texte peut être repris à n'importe quel moment. On a par exemple l'exemple de Proust, lorsqu'il reçoit les premières copies, il y a son fameux titre, je crois que c'est Les Intermittences du cœur.
Oui,
et
oui.
Et puis
oui.
Il barre et il met non, finalement, je vais écrire À la recherche du temps perdu.
Et le temps, Flaubert, 10 ans pour faire un texte.
Absolument.
Donc, là, voilà.
En revanche, Gilles Brahem, lorsqu'on est luthier, pour arriver à corriger quelque chose qui a été mal fait, c'est fini, c'est bien ce que vous nous avez expliqué. Ou c'est très difficile de récupérer ?
C'est très difficile de récupérer. Il arrive des fois où c'est définitif, hein, où l'erreur est fatale, mais en général, on fait quand même très attention. Quand on est apprenti, qu'on commence à faire un instrument, on n'est pas tout seul, on est avec un maître qui quand même surveille vos gestes. Et vous évite dans la limite, vous évite au maximum de faire des grosses bêtises. Quoi. Donc vous êtes quand même, vous y allez très progressivement au départ. comme toutes les techniques d'ailleurs, hein, quelles qu'elles soient. Je pense qu'on commence toujours très doucement et puis petit à petit, on prend de l'assurance, et etc., etc.
C'est au tempo, au métronome, n'est-ce pas, Célia ? On commence au métronome, parce que justement, il y a quelque chose qui est tout à fait étonnant. Là, il y a un travail d'artisanat. Vous me direz qu'au piano, c'est jamais fini, puisque le principe même, la plupart du temps, des interprètes, quand même, ils refusent d'écouter leur disque. Enfin, moi, la plupart des interprètes que j'ai entendus, ils disent, soit ils ont trop peur de pas pouvoir refaire la même chose, soit ils disent que ça, ils ont tellement changé que ça ne leur appartient plus. Mais là, justement, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que au lieu d'être devant une sonate de Beethoven ou de Schubert, là, vous êtes devant une partition qui est, on peut dire, presque neuve, presque nouvelle. Donc, il faut s'approprier le texte et ensuite passer au stade de l'interprétation sans avoir aucune référence. Ouais. Comment fait-on ?
Bah, c'est déjà très, très excitant de ne pas avoir de poids, d'héritage sur les épaules, de tant de géniaux pianistes qui sont passés avant nous. Alors, comment on fait ? Je pense qu'on devrait faire ça pour tous les répertoires. Donc, d'ailleurs, j'essaye de plus en plus de faire ça pour tous les autres répertoires. Mais déjà, on s'imbibe un peu du reste du catalogue du compositeur, de la compositrice. Donc, là, moi, ce qui est super, c'est que Marie-Gaëlle, au même moment dans ma vie, j'ai découvert son quatuor avec piano.
Oui.
Au même moment dans ma vie, j'ai commencé à travailler son premier concerto pour piano. Déjà, c'est quand même
trois. Vous élargissez l'univers.
Voilà, j'élargis. Il y avait aussi quelques mélodies que j'ai pu travailler à ce moment-là, donc avec des chanteuses. Donc déjà, ça me donne un petit peu une idée de qui est Marie-Gaëlle au-delà d'un cycle, parce qu'on ne peut pas résumer, je pense, un auteur à un livre. Enfin, après, quand vous parlez de Proust, je me dis, est-ce qu'on peut résumer Proust à la recherche du temps perdu ? Peut-être, quand même. Donc, bon. Mais bon, c'est quand même un pavé, quoi. Donc, et donc, tout ça pour dire que Marie-Gaëlle, du coup, déjà, j'essaye d'arriver techniquement à réaliser ce qui est marqué dans la partition. Et après, c'est comme pour tout, une fois qu'on a été fidèle au texte, on essaie de fermer un peu la partition et de dire maintenant, qu'est-ce que moi j'apporte là-dedans, comment je le lis en 2023 enfin, ou en 2022, enfin, qu'importe. Aujourd'hui, le piano, c'est plus le même que celui de Marie-Gaëlle. Je joue sur un piano qui a beaucoup évolué depuis 120 ans. Et là, elle n'est plus là pour me dire si ça lui plaît ce que je propose ou pas. Mais en tout cas, je suis obligée d'être audacieuse puisqu'il n'y a pas d'héritage et que j'ai pas envie d'être un peu ennuyeuse à faire solfégiquement la réalisation d'une partition. Si on jouait les partitions solfégiquement, on s'ennuierait terriblement en écoutant de la musique. Donc il faut...
Bien évidemment. Donc voilà. Il y a une part de création, c'est clair.
Mais un peu.
Mais en même temps, il faut faire aussi abstraction de tout ce qui a été fait depuis, c'est-à-dire tous les styles, toutes les évolutions. Par exemple, l'évolution avec la musique de Debussy dans certaines pages, le dernier Liszt que l'on connaît, qui est très particulier, et puis aller vers quelque chose qui va à la limite, aux frontières du romantisme. Donc
c'est
là
ça.
Aussi, il faut arriver à faire peut-être une synthèse.
Il faut être conscient de où on en est esthétiquement au moment où cette œuvre elle est composée. Donc là, vraiment, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est l'aube du XXe siècle, c'est l'aube de beaucoup de nouvelles esthétiques en musique, et c'est aussi une digestion massive de la musique romantique et allemande et française, pour le cas de Marie-Gaëlle, qui était alsacienne et donc qui a vraiment hésité entre le choix
Absolument.
De la nationalité allemande ou française, et qui a choisi la France parce que son grand maître, c'était Camille Saint-Saëns. Mais malgré tout, elle connaissait très bien Brahms, elle jouait l'intégralité des sonates de Beethoven, hein, quand même, c'est la première à avoir proposé l'intégralité des sonates de Beethoven en concert en France.
Absolument.
Donc on ne peut pas ignorer cette partie allemande, germanique, donc un petit peu...
rigoureuse.
Puis harmoniquement épaisse, quoi. Il y a un truc qui est quand même plus dense dans la musique germanique que dans la musique française, qui est quelque chose de qui cherche plus de la dentelle, du raffinement. Et elle est vraiment une sorte de mariage de ces deux quêtes.
Kyrie Schoenemann, quand on lit vos romans, on s'aperçoit que vous êtes, alors peut-être c'est votre personnage, et en même temps, vous avez suggéré qu'il y aurait certainement une part d'autobiographie, c'est quelqu'un qui est absolument un maniaque de la précision. Comment joue-t-on dans l'écrit, dans l'écriture? Est-ce qu'il y a des modèles vers lesquels on va? Et parce qu'on a la chance tout de même de pouvoir écrire aujourd'hui avec un ordinateur, ce qui n'était pas le cas, donc de savoir très exactement où l'on va, quels sont les personnages que l'on a abordés, ce qui n'était pas le cas par exemple dans La condition humaine de Balzac, où lui malheureusement, il n'avait même pas de fiche. Il continuait son œuvre.
C'est ça, il y a des écrivains qui commencent un texte et qui ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas où ils vont du tout. Moi, je ne pourrais pas écrire si je ne savais pas où je vais. C'est la raison pour laquelle tous mes détails, quand j'écris un mot ou une phrase qui semble anodine, elle va avoir du poids. Quand on la lit, on la relit ensuite. On dit, elle est là parce que j'ai prévu la chute ou du moins la suite.
Avez-vous donc une idée très très précise?
Moi, j'ai une idée très précise. Voilà. Voilà. Alors, c'est un plan que je ne fais jamais par écrit. J'ai tout dans ma tête. Je lis beaucoup. Et une fois que je pars, après... Je fais toujours des chapitres courts et je sais où je vais. Alors après, une fois que c'est fini, en effet, je reviens sur certains détails. Alors quand on écrit, de toute façon, on crée des personnages avec des enquêtes. Bien que l'enquête ne soit pas primordiale, il faut quand même qu'elle tienne la route. Et pour qu'elle tienne la route, il ne faut pas qu'on puisse être repris à aucun moment. Donc il faut que ce soit imparable, comme on dit. Donc pour que ce soit imparable, il faut que les détails soient précis et soient vérifiables.
Donc il y a des recherches, vous pouvez demander conseil à, notamment, je suppose, à des policiers, à des juristes.
Très peu, mais j'ai un ami qui n'est pas un très grand procédurier, mais qui me dit ça va parce qu'il faut... Ce qui me différencie en effet des auteurs de polar traditionnels, on va dire, c'est que justement cette enquête et toute la partie judiciaire et policière je vais pas passer trois pages à décrire une action de police scientifique, par exemple, ou un rapport d'expertise.
Ça, c'est pour les séries, télévisées.
Dans les séries, même dans les, je citerai pas de nom, mais il y a des auteurs qui en font leur commerce de ça. Mais bon, ça peut plaire. Mais enfin, moi, c'est pas mon truc. Moi, ce qui m'intéresse, en effet, c'est justement d'avoir la psychologie de ce personnage, comment il fait avancer, comment il peut se faire aider, parce qu'en fait, c'est un flic de papier, c'est un flic qui n'est bon que dans les rapports écrits. Donc, c'est pas un grand mec, il a été adopté, il a vécu 10 ans d'une vie vraiment abominable, les 10 premières années, donc tout ce qui lui arrive par la suite, pour lui, c'est du bonheur, en fait. Voilà. Donc, il est dans ses enquêtes, il n'est pas très doué, mais il écoute. Il écoute et il regarde, ce qu'on devrait faire plus souvent, je crois.
Alors justement, c'est presque un paradoxe de vous avoir même invité tous les trois, parce que deux d'entre vous êtes dans le silence, vous en tant que luthier, vous en tant qu'écrivain. L'écriture est même, comment dirais-je, se prive même peut-être de musique. Alors je ne sais pas si vous écoutez de la musique en écrivant, alors que vous, Célia, vous produisez avant tout du son. Donc il y a cette notion en même temps de silence. Je sais que ça peut être contredit par le fait qu'on a tout de même donné un prix Nobel de littérature à un chanteur. Mais tout de même, quand même, qu'en pensez-vous, Kyrie Schoenemann? Oui. Le silence avant tout, non? Vous avez parlé de rock, c'est plutôt bruyant ça.
Oui, mais enfin, vous savez que quand on est le rock, c'est trois accords, on a coutume de dire, mais enfin, il faut avoir l'énergie, voilà.
Et le son.
Le très bon rocker, c'est celui qui a l'énergie, voilà, et le son. Voilà. Bon,
mais c'est la même chose pour la musique classique. Même lorsque vous avez des musiciens qui viennent dans votre atelier, vous voyez tout de suite si le violoniste est un bon musicien, un excellent musicien, ou un maître, sans même connaître peut-être le visage, sans avoir vu son visage.
Ah oui. On voit ça tout de suite. Oui.
Il y a le son, le fait d'utiliser, de projeter le son.
La posture avec l'instrument, le son, la projection du son.
Et puis son exigence, sûrement, j'imagine.
Bien sûr.
La personne qui arrive en disant « ça s'est décollé, ça me gêne vachement » parce que... Enfin, j'imagine...
Oui. Il y a un dialogue qui s'installe entre tous les deux et voilà, on voit que c'est quelqu'un qui maîtrise totalement son art et son... Dans les questions qu'il nous pose, dans les remarques qu'il fait, on comprend tout de suite qu'on a affaire à quelqu'un qui a du métier.
Alors, puisque nous parlions avec Kyrie Schoenemann justement de la psychologie des personnages et de ce travail sur justement tous les personnages qui créent le roman, qui créent le décor du roman, Gilles Brahim, parlez-moi de la psychologie des musiciens, puisque vous êtes vraiment le grand docteur, en fait, des musiciens. Comment peut-on arriver à calmer le stress de certains artistes? De quelle manière on aborde cette dimension psychologique qui doit être finalement passionnante, parce que le violon, on dit souvent, ou même les autres instruments, c'est le prolongement tout simplement de l'individu, de l'artiste.
Alors, il y avait un confrère que vous avez tous certainement connu parce qu'il passait très souvent à la télévision, c'était Étienne Vatelot.
Bien sûr. Bien connu d'ailleurs.
Oui, mais sur le plan technique, qu'est-ce qui les différencie des autres violons ?
Le snobisme et la spéculation n'entrent pour aucune part dans leur évaluation.
Non, absolument pas sur le côté snob de l'affaire, des Stradivarius, c'est impossible. Les violonistes jouent tous, soit des violons Guarnarius del Jesus, soit des Stradivarius, et croyez-moi, les grands artistes ne sont pas snobs, absolument pas.
Qui disait que nous étions le médecin des âmes.
Très joli.
Pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans un violon, il y a une âme. Donc forcément, on intervient sur l'âme du violon, mais quelque part, on intervient souvent aussi sur l'âme du musicien. C'est-à-dire que le musicien qui vient nous voir, pour lui, il y a toujours un problème. Mais si possible, c'est plutôt l'instrument la cause, c'est pas lui. Et c'est à nous de réfléchir et de dire que, enfin, d'arriver, sans lui dire vraiment, mais d'arriver à lui faire admettre qu'il faut, il faut qu'il dépasse ça, quoi. Enfin, l'instrument n'a pas de problème. Mais il faut passer un cap. Soit il a eu des soucis, soit, je ne sais pas, il a eu un contrôle fiscal, allez savoir quoi, je ne sais pas. Et donc il arrive, c'est tellement sensible, un interprète musical est tellement sensible et à fleur de peau quelque part, surtout quand il travaille des œuvres difficiles, que le moindre petit gravier, le moindre petit caillou peut enrayer la machine très facilement. Et nous, on est là pour le rassurer. Alors des fois, c'est rare, hein, mais enfin des fois, on fait un peu de cinéma sur l'instrument, oui.
Quel type de cinéma ?
Oh, ben on peut tapoter simplement sur l'âme en lui disant on a touché l'âme, vas-y, essaie maintenant. Et puis rien que le fait, c'est comme quand on va chez le dentiste, on avait mal aux dents, on arrive chez lui, on a plus mal. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, c'est un peu pareil. On fait quelques bruits dans l'instrument, on lui dit voilà, j'ai fait ça, essaye. Et il y a toujours un changement. Alors, en bien ou en mal, hein, mais il y a toujours un changement. Généralement, c'est plutôt un peu mieux.
Et du côté de l'artiste, du côté de l'interprète, il arrive peut-être que vous arriviez devant le piano avec une idée de conflit, c'est-à-dire que vous détestez ce piano que vous adorez par ailleurs et qui ne rend absolument pas ce que vous aviez prévu. Et alors là, qu'est-ce qui se passe, notamment vis-à-vis de l'accordeur
Non, mais alors déjà, le drame du pianiste, c'est qu'il n'a pas son piano. Moi, absolument. Je suis jalouse de mes collègues violonistes, violoncellistes, clarinettistes. Et alors, je ne parle même pas des chanteurs qui se trimballent avec leur instrument in situ voilà, mais donc déjà nous c'est une rencontre à chaque fois et le but là on est un peu comme sur un date Tinder, on a envie que ça se passe bien parce qu'on est là tous les deux, on fait le concert ensemble le soir, il faut jouer le jeu, il faut que ça se passe bien, donc quand bien même en vrai on pense toi je t'aime pas trop, et il faut faire équipe. Il faut faire équipe, donc il faut qu'on tire le meilleur de l'instrument et il faut faire en sorte que l'instrument nous fasse tirer le meilleur de nous-mêmes. Et du coup, on découvre en même temps l'instrument, la sensibilité du clavier, hein, parce que c'est ça qui peut souvent nous déranger, nous les pianistes, c'est qu'il y a des claviers plus ou moins lourds. Enfin, c'est notre expression à nous. Alors, je pense que c'est pas du tout une question de masse, c'est une question de rapport entre la vitesse d'attaque et la puissance du son. Mais donc, on appelle ça des claviers lourds. Ouais. Quand c'est très lourd, c'est très fatigant de tenir une heure et demie de récital dessus. Et puis, on découvre l'acoustique, si on est en plein air, si on est dans une salle sèche avec des rideaux de velours où déjà on va se batailler. Et puis il y a des répertoires qui matchent avec des pianos. Il y a des pianos qui sont bons pour tous les répertoires. Il y a des pianos qui mettent en valeur certains répertoires. Et donc, bon.
Vous est-il arrivé de changer au dernier moment ? Alors, je sais bien que les producteurs et les organisateurs de concerts n'aiment pas, mais de changer votre répertoire parce que le piano n'était vraiment pas adapté ?
Alors, moi, je me définis comme PTT, pianiste tout-terrain. Donc, je mets un point d'honneur à m'adapter. Je ne vais pas faire partie de ces pianistes qui pourraient faire ça. Alors, je pense que pour se permettre de faire ça, il faut être quand même... un peu une star du piano, ce que je ne suis pas, en tout cas pas pour le moment, si jamais je le devenais. Et puis moi, je trouve beaucoup aussi de joie dans le défi de tirer le meilleur d'une situation. Je suis pas en train de faire un disque, je suis en train de faire de l'art vivant, du spectacle vivant. Et pour que ce soit vivant, il faut aussi qu'il y ait un enjeu et un petit peu de risque. Donc j'y trouve un enjeu qui me plaît, en fait.
Oui, parce qu'il y a un certain nombre de... Oui, pardon,
Richard. Une question qui me... Oui, et quand vous jouez, si psychologiquement parlant, vous êtes dérangé pour une raison ou pour une autre, est-ce que ça peut vous arrêter, vous bloquer, vous faire abandonner ?
Non. Non, enfin, en tout cas, plus, plus maintenant.
The show must go on, c'est sûr.
Mais... The show must go on. Non, mais puis il faut rester professionnel. C'est-à-dire que ça, c'est ma tambouille. Ça regarde pas... Quand moi, je joue... ce qui compte, c'est que les gens, ils apprécient les compositeurs, les compositrices que je joue. Je vais pas le... J'essaye de pas me mettre au centre du processus. J'essaye de mettre vraiment l'œuvre que je joue, le programme que je joue. Mais bon, bah, bien sûr, il y a des moments où on n'est pas confortable. Et puis voilà...
Non, je dis ça parce que quand je jouais au golf, il y avait, dès qu'on avait un problème psychologique ou un problème familial ou un problème, c'était terrible, ça influait complètement sur le jeu et sur le résultat.
Ah mais c'est sûr, ça influe sur le jeu et en même temps, quelqu'un qui, ça peut paraître dramatique, mais quelqu'un qui a perdu sa mère le matin et qui joue le soir, il peut en même temps se transcender là-dedans.
Oui,
y compris parce qu'il perd sa belle-mère.
Non mais, bon, en tout cas, on ne joue jamais deux soirs pareils. Et ça, il faut l'accepter. Et il y a des soirs où on est génial alors qu'on n'était pas en forme et on n'était pas confortable. Ça aussi, il y a quand même toute une partie qui nous échappe. Et ouais, enfin, je sais que pour avoir souvent travaillé avec des compositeurs vivants, c'est pas facile pour eux parce que leur création, c'est le moment où vous disiez que vous abandonnez le livre. Bah, eux, c'est le moment où ils abandonnent leur œuvre. En plus, ça ne dépend plus d'eux si elle est bien jouée ou pas. C'est pas facile pour eux d'accepter qu'il va y avoir plein de paramètres qui leur échappent. Et en même temps, c'est ça qui est la beauté.
L'œuvre ne leur appartient plus. Elle commence une vie indépendante.
Ouais.
Et le compositeur peut être malheureux parfois, ouais. Même certainement regretter. Certains compositeurs d'ailleurs regrettent d'avoir composé certaines œuvres.
Ouais. Ouais.
Je me souviens d'Henri Dutilleux qui était malheureux lorsqu'on jouait certaines de ses œuvres. Il aurait voulu les réviser. Mmh. Malheureusement, c'était pas possible. Vous avez aussi ce sentiment parfois, Guy Reichenmann, en vous disant, parce qu'au fur et à mesure de vos ouvrages, votre écriture se modifie comme tout auteur, comme tout écrivain, et de vous dire, bah, peut-être ce serait bien de pouvoir réviser certaines choses.
Mais on les révise. Hein. Il y a certains textes qui ont 10 ans, mettons, d'écriture, qui n'ont pas été repris ou qui ont été édités à une certaine époque, on les reprend.
Oui.
On les reprend. C'est Didier Denex qui m'avait donné ce truc-là, le célèbre, enfin, un très grand auteur, qui m'a dit, moi, je reprends mes textes, je les remets à la sauce du jour ou de ce que j'ai envie de faire. Il me dit, c'est dommage de laisser tomber des textes qui valaient quelque chose. Et il les remet un peu au goût du jour, oui. Oui, en les reprenant, bien sûr. Bien
pour
sûr.
Le grand plaisir de l'éditeur.
Oui, et puis, alors, c'est pas de la fainéantise, hein, mais il y a des textes qui méritent d'être revus, oui, un petit peu. C'est vrai, on peut les revoir, les reprendre.
Nous parlions de musique et de silence. Célia, lorsque vous travaillez une œuvre, est-ce que vous avez besoin d'avoir un bruit ajouté? Je m'explique. Glenn Gould, par exemple, mettait toujours la radio. Pas de musique, bien sûr, mais il mettait toujours un fond sonore de missions, notamment d'actualité, de façon à avoir une présence et à assurer en fait une profondeur par rapport à ce qu'il jouait, à ce qu'il travaillait. Guy Reichenmann, vous-même, est-ce que vous écoutez, vous avez cette nécessité du silence lorsque vous travaillez ou pas du tout? Vous pouvez être interrompu à n'importe quel moment, un peu comme Simenon d'ailleurs.
Oui, moi je peux être interrompu. Moi, ce que j'adore, moi, c'est la pluie. Alors donc,
oui, vous êtes fasciné par
la pluie. Moi, dès que j'ai un moment un peu gris, brumeux, plutôt froid et avec de la pluie. Bon, je suis à l'intérieur, hein, je ne vais pas écrire. J'aime beaucoup, oui. J'aime beaucoup. Alors, est-ce que ça me fait mieux écrire? J'en sais rien, mais du moins, j'aime ça.
C'est donc le rythme?
Oui, l'espèce de rythme, de régularité, de son. Voilà, ce son me convient. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Hein.
Gilles Brahim, dites-moi, le bruit aussi est une gêne pour vous?
Non, on vit tout le temps dans. Enfin, c'est pas ce que j'appellerais du bruit. Nous, on a toujours des bruits d'outils, des bruits de. Quand on travaille le bois, ça fait du bruit. Il y a un petit bruit, mais
bien sûr.
Pour nous, qui est toujours très agréable, parce qu'on écoute le son que fait le bois.
Mais je veux dire, vous n'avez pas de musique.
Si, on peut.
Également.
D'ailleurs, l'atelier vit en musique 24 heures sur 24. Je n'éteins jamais la musique de l'atelier.
Du violon uniquement?
Non. Ça peut être du classique, ça peut être du jazz, ça peut être du rock un peu moins, parce que c'est un peu dynamique pour moi, mais voilà. Non, il y a tout le temps de la musique à l'atelier.
Gary Schoenemann, il y a autant de techniques d'écriture presque que d'écrivains. Revendiquez-vous une filiation ? Avez-vous des maîtres ? Peut-on s'en détacher ? Parce que la littérature française, entre autres, est absolument fabuleuse.
Alors, une vache ne boit pas de lait, c'est-à-dire que je ne lis pas de polar, ou très peu. Vous voyez, j'aime bien lire ce type d'ouvrage, genre Monsieur Origami, La forêt au violon. Dernièrement, j'ai lu Le soldat désaccordé, justement. Et tout ça, c'est une littérature générale. En littérature policière, je ne suis pas... Alors, on me compare modestement à Fred Vargas, puisque Adamsberg, c'est un peu Villoc. Je n'avais jamais lu Adamsberg avant, mais enfin voilà, c'est un peu du hasard où il se trouve que ça tombe comme ça. Pour moi, l'inventeur de l'écriture du XXe siècle, c'est Céline. Alors, on en pense ce qu'on veut, je ne parle pas de ses pamphlets, mais je parle de l'écriture de ces textes majeurs. Au début, quand j'ai lu Céline, le premier voyage, les dix premières pages, j'ai dit à ma femme Catherine, j'ai dit, qu'est-ce que c'est mal écrit ? Et j'ai continué parce que... Et puis tout d'un coup, je suis passé de la vulgarité à la poésie et après à l'espèce d'arborescence poétique. Et, enfin, j'ai
peut-être
trouvé
parce que c'est une écriture qui ne se lit pas, mais qui se dit à voix haute aussi.
Ah, qui se dit à voix haute, mais c'est incroyable. Et puis quand on la lit, on rebondit, on ne cesse de rebondir.
Avec les trois points de suspension. Permanent.
On ne cesse de rebondir. Et alors bien sûr, même si on n'est pas dans la compréhension totale, on continue parce qu'on est dans le rebond et voilà.
C'est du rythme, en fait.
C'est de la musique.
C'est une écriture qui swing.
Ah oui, c'est une écriture qui swing terriblement.
T'iras bientôt la voir. Eh, je pourrais pas avant 3 ans. Tu comprends, ici, je fais un peu de commerce en douce, alors ça lui aide bien. Si je partais en congé à présent, au retour, la place serait prise. Ainsi, Alcide demandait-il à redoubler son séjour dans cet enfer. Ce qui m'ennuie, disait-il, c'est qu'elle a personne là-bas pour les vacances. C'est dur pour une enfant. Il tutoyait les anges, ce garçon, et il n'avait l'air de rien. Il offrait à cette petite fille lointaine assez de tendresse pour refaire un monde, et ça se voyait pas. On s'est couché, il s'est endormi à la lueur de la bougie. J'ai pas pu m'empêcher de me relever un coup pour bien le regarder à la lumière. Il dormait comme tout le monde. Il avait l'air bien ordinaire. Ce serait pourtant pas si bête s'il y avait quelque chose pour distinguer les bons des méchants.
La poésie se mêle à l'argot. Enfin, c'est vraiment un exemple. Alors, le gros danger quand on écrit après avoir lu Céline, c'est de vouloir écrire comme lui. Mmh. Alors, je ne sais pas si au niveau de l'interprétation, ça fait la même chose. Mais ça, c'est le danger. Donc, il faut s'arrêter. Il faut surtout pas écrire quand on lit Céline. Hein. Il faut attendre un peu.
Alors, justement, merci Gary Schoenemann de m'avoir fait poser la question que j'allais poser et que vous avez posée vous-même. Peut-on être influencé par des interprètes ? Là, je pense du répertoire absolument en général. Est-ce qu'il y a des interprètes dont le jeu, le toucher... Ah, je sais bien que c'est absolument inimitable, et imiter, c'est complètement stupide. Mais quand même, il y a des grands maîtres qui quand même imposent leur patte sonore quand on joue le grand répertoire.
Oui, bah bien sûr. Après, je crois qu'il ne faut pas essayer, en fait, je dirais comme vous, il ne faut pas essayer d'imiter, il faut se laisser être un buvard et on est le buvard de ce qu'on aime. Donc, il y a des pianistes très différents que moi j'apprécie, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Moi, j'essaye de ne pas du tout me laisser influencer que par des pianistes. Déjà, je trouverais ça un peu trop triste. Donc,
bien
sûr, vous avez bien d'autres expressions. Ouais, déjà d'autres instrumentistes ou les chanteurs. Enfin, moi, j'écoute beaucoup la voix. J'écoute beaucoup les cordes aussi parce que ils peuvent soutenir le son. Là où nous, on doit l'écouter. Mais une fois qu'on a enfoncé la touche, on ne peut plus vibrer, on ne peut plus soutenir, on ne peut pas... faire un son qui va crescendo.
Alors peut-être aussi que ça dépend de la longueur du son de l'instrument.
Exactement.
Il y a cela aussi. Ouais. Et puis en même temps, il y a une très jolie explication que m'avait donnée le pianiste Christian Zimmermann en disant que l'intérêt, c'était de penser déjà à l'harmonie de la note suivante. C'est-à-dire qu'ils disaient, les pianistes jouent une note, ils ont l'impression que la note va mourir une fois que le son s'arrête, alors que c'est à ce moment-là qu'elle va revivre. Par ce moment, ou presque le silence, on va passer sur une autre harmonie.
Déjà, ce qui est dingue, c'est qu'au piano, quand il y a vraiment un switch dans la progression d'un pianiste, c'est le moment où le pianiste est capable d'écouter la note dans la longueur, quand il l'a déjà jouée, pour mettre en relation ce qui reste du son de cette note avec ce qu'il va produire dans le son suivant, pour que tout soit connecté. Et ça, ce moment, quand on commence à faire ça techniquement... Là déjà, on commence à avoir un certain niveau. Moi, c'est Rena Cherechevskaya qui m'a appris ça.
Professeur à l'école normale.
Et à qui je dois vraiment cette capacité à connecter les sons entre eux, même nos sons qui disparaissent. Et en fait, en écoutant ce son, on le fait être vivant, on le rend vibrant. C'est ça, c'est absolument magique, ça, le piano.
C'est ce que Modiano appelle la liaison en littérature. C'est-à-dire qu'il compare ça à un train et il dit le plus important, c'est d'attacher les wagons. C'est ça. Mmh.
Exactement, d'où la fluidité de son discours. On a l'impression d'une immobilité absolue dans ses romans. Et d'ailleurs, il y a une certaine forme aussi d'immobilité chez vous, dans votre écriture, cette espèce de fluidité, alors que se passe un tas de petits événements qui vont progressivement modifier la structure même de l'ouvrage. Alors, il y a évidemment aussi l'inspiration qui peut venir. Vous m'avez parlé de la pluie, mais là, quand même, nous sommes au Cap Ferret. C'est un paysage.
Il pleut, si, il pleut.
Il pleut aussi, il arrive qu'il pleuve. Extraordinaire. Les couleurs, évidemment, sont aussi, je suppose, l'atmosphère. Et puis, il y a tellement d'écrivains qui sont au bord de la mer, d'ailleurs. Il faudrait d'ailleurs qu'on se pose un jour la question de savoir pourquoi il y a finalement assez peu de compositeurs sur les côtes, notamment sur les côtes atlantiques. Évidemment, il y a Paul Leflem, Jean Crass, etc. Il y a un certain nombre de grands compositeurs. Ravel était, Saint-Jean-de-Luz, pas tout le temps, mais il était davantage parisien. Mm. Et puis, il y a tellement de peintres, tellement d'écrivains. Les lieux, en fait, vous incitent à l'écriture. Vous pourriez très bien écrire exactement de la même manière dans une chambre de bonne sous la pluie à Paris.
Dans la mesure où j'ai vécu toute mon enfance dans le coin, oui, bien sûr, parce que ma mémoire est intacte. Là, je viens d'écrire un livre, mon dernier, sur le Gabon. Je suis né au Gabon, donc à Libreville. J'y suis resté 18 mois, choisir ma soignée parce que j'allais mourir. J'y suis revenu à 14, 15 ans, 16 ans. Et j'ai écrit donc quelques années après. J'avais des souvenirs, mais intacts, et je les ai fait corroborer, on peut dire, par des gens qui habitent au Gabon et qui en viennent, et qui me disent, mais c'est ça. C'est-à-dire que ça n'a pas bougé, quoi. Ça n'a pas bougé, c'est ça. C'est ce que j'ai en tête, c'est ça, oui. Je travaille avec un ethnologue qui m'a confirmé. Il m'a aidé, bien sûr, parce que bon, le Libreville actuel, je le connais. Enfin, je ne l'ai jamais connu, à la limite, puisque j'y suis né. Puis après, je suis parti tout de suite au bord de Logo. Et donc, à partir de là, je vis sur ces souvenirs qui devaient être très, très profondément ancrés. Oui.
Est-ce qu'il y a un jeu, notamment, on pourrait dire, un jeu de synesthésie entre les couleurs, les sons, l'écriture? On a l'impression que ça se restitue dans votre écriture, justement.
Oui, moi, je suis toujours, en fait, je suis toujours dans la description, en effet, des paysages, de nos paysages, hein, comme je les appelle.
Bien sûr.
Mais ils sont toujours différents. Ils sont toujours différents. Quand vous êtes là, moi, je vais vivre toute cet automne, je vais le vivre ici, pour une raison X. Et j'adore l'automne, j'adore les couleurs d'automne. En plus de ça, je suis affublé d'une horrible tare de chasseur, donc, parce que maintenant, il ne faut plus le dire. Donc, avec mon épagneul, quand on va dans la forêt qui est multicolore, bah, c'est formidable. On a même sentir un coup de fusil, parce que maintenant, on est passé à autre chose. Hein. Ça, c'est une source d'inspiration, hein, incontestablement. Alors, je n'y pense pas, mais quand, chaque fois que j'écris, en effet, j'essaie de le faire ressentir au lecteur, oui.
Ressentir, comme on pourrait dire, l'humus ou l'odeur de la mer,
absolument.
L'odeur de la terre aussi, oui, que l'on retrouve. Célia, vous avez également ce sentiment aussi de synesthésie lorsque vous jouez au jeu du piano? Évidemment, on pourrait parler de Messiaen,
de Scriabine. Bien sûr. En tout cas, en tant qu'interprète, c'est une quête. C'est une quête de créer des couleurs. Bah, d'ailleurs, les musiciens, on passe notre temps à parler de couleurs alors que c'est pas visuel. Mais voilà, on fait une couleur spéciale, là on fait une couleur dolce, là on fait une couleur éclatante, là on fait une couleur. Et je pense que de l'extérieur, les gens se diraient, mais ils sont fous. Ils sont fous, ces gens-là, à parler entre eux, on comprend rien. Et nous, donc c'est vrai qu'on a un langage très imagé, en fait, les musiciens, dans notre travail d'interprétation. Moi, quand j'entends de la musique, je vais voir des paysages où je vais sentir effectivement des odeurs, je vais être amenée dans un récit imaginaire. Je vais pas forcément voir une couleur très précise, j'ai pas cette oreille là comme Scriabine ou Messiaen, oui, effectivement avait, mais par contre en tant qu'interprète de me dire à cet endroit là c'est quelque chose de pastel ou au contraire là c'est très vif ou là c'est fluo, quasi vulgaire, enfin c'est des choses qu'on va chercher et qui nourrissent carrément ce qu'on va faire en termes de, ça va se traduire dans des modes d'attaque, des modes de jeu, dans une pédalisation, dans une manière de jouer avec les autres si c'est en musique de chambre, enfin oui, ça se traduit très concrètement quoi.
Et la composition, ça vous tente pas ou vous n'avez pas, vous n'avez pas d'appétence ou de...
Je suis vraiment interprète. Alors, ce que je peux faire, et je le fais avec vraiment grande joie, c'est de transcrire donc, certaines œuvres qui sont écrites
pour
déjà,
orchestre ou pour ensemble.
Pour orchestre, ou voilà, enfin de les rendre jouables pour mes deux mains au piano. Mais moi, je ne suis vraiment pas du tout compositrice dans l'âme. Mais c'est marrant, quand j'étais petite, je voulais être écrivaine à un moment et j'ai commencé, parce que je trouvais que J.K. Rowling tardait beaucoup trop à écrire la suite d'Harry Potter, donc j'ai commencé la suite à un moment. Ah, j'ai quand même écrit 4 chapitres du 5e tome, qui finalement est sorti par elle, donc elle m'a doublée. Et puis j'avais commencé un autre livre quand j'étais en 6e, je me souviens, enfin bon bref, mais qui sont morts dans l'œuf. Mais donc voilà, j'avais cette envie de récit, mais par contre jamais en musique. Mais par contre, sur la plupart des morceaux de musique que je travaille, j'ai des récits dans ma tête.
Mais n'abandonnez pas, vous avez le temps. Hein.
Non, mais c'est pas une nécessité intérieure en tout cas.
Mais dans les écrivains, par exemple, on compose, on crée.
Oui.
Absolument.
Mais... J'oserais dire qu'il y a des écrivains interprètes, puisque les fameuses œuvres de commande, c'est-à-dire l'éditeur qui a un garçon ou une fille qui est connu et qui marche bien, qui vend beaucoup, et l'éditeur lui demande, allez, il en faut un autre l'année prochaine, il en faut un autre dans 6 mois et tout ça. Et là on se rapproche un petit peu de l'interprète, c'est-à-dire qu'il va reprendre un peu ce qu'il avait fait, puis il va refaire grosso modo ce qu'il avait fait avant, quoi. Il ne crée plus. Quoi. C'est pour ça que quand on a des écrivains que l'on aime, quelquefois on est déçu par leur texte, parce que c'est l'immédiateté, on le pousse aux fesses un peu pour qu'il écrive, pour qu'il vende, pour que l'éditeur vende. Et c'est la raison pour laquelle, souvent, enfin, parfois, moi j'ai des écrivains, je suis déçu de leur texte. Parce que ça part pas d'une nécessité, ils interprètent quelque chose. Voilà.
Absolument. Et pourtant, la commande peut être stimulante. Regardez par exemple Eden Slav ou Dvorak. Ça a eu un succès tellement phénoménal, parce que c'est Brahms qui avait présenté Dvorak à son éditeur, à Simrock. Et l'éditeur a trouvé ça tellement génial qu'il en a commandé d'autres. Dvorak ne voulait rien entendre, et finalement, quand on lui a présenté le chèque, il a accepté.
La nécessité intérieure est née à ce moment-là.
La nécessité intérieure subitement est née, et finalement, elles ne sont pas mal du tout.
Non. Mais c'est vrai que l'interprète aussi, moi en tout cas, en tant qu'interprète, je réponds vraiment à une nécessité intérieure. Être sur scène en tant que pianiste, c'est ma raison de vivre, vraiment. Donc, on m'enlève ça, je pense que ça va très mal pour moi. Alors que composer, c'est jamais été un truc qui m'a donné le besoin de me lever le matin, alors que travailler... Et puis, en fait, je trouve ça tellement gratifiant, mais je pense que c'est pareil quand on crée une œuvre, quand on crée un instrument, de voir ce travail qui s'étoffe au fur et à mesure des jours, de maîtriser de plus en plus une œuvre, de pouvoir la présenter. En plus, c'est des choses qu'on partage, qu'on fait tous les trois, donc c'est quelle chance, quoi.
Précisément, Gilles Brahem, vous vouliez, je crois, être musicien au départ. Vous avez été oboïste, entre autres.
Oui.
Et en 1985, vous décidez de vous offrir un autre outil complètement différent, qui est celui de créer des instruments. Comment s'est passé ce passage ? Est-ce que ça a été une évidence ? Est-ce que c'est venu progressivement ?
Alors, ce n'est pas en 1985. Je me suis installé en 1985, mais j'ai commencé le métier de luthier en 1973.
Ah bah écoutez, je vous rajeunissais.
Merci. Et oui, effectivement, j'étais au conservatoire en classe de hautbois. Je voulais être musicien et puis... Mes parents n'étaient pas très riches, mon père était artiste peintre, ma mère sculpteur. Et c'était une famille où il y avait des jours avec et des jours sans, on va dire, au niveau des finances. Donc je me voyais mal, à l'époque on disait beaucoup, et ça se dit toujours, il faudra aller à Paris pour continuer ses études. Parce que j'arrivais au conservatoire au niveau fin d'études, donc le problème commençait à se poser. Et puis j'avais fait quand même beaucoup de sculpture quand j'étais gamin, de façon autodidacte, pour copier peut-être un peu ma mère, un peu de peinture pour copier mon père, et puis je ne sais plus, voilà. Donc j'aimais bien travailler de mes mains. Et puis mon père un jour me dit « Bon, qu'est-ce que tu veux faire ?»« Ben, écoute, je sais pas. J'ai pas envie d'aller à Paris. J'aimerais bien être musicien, mais rester ici, c'est pas possible. » Enfin, j'étais un peu jeune pour exprimer tout ça, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Il me dit « Écoute, je vais aller voir un luthier, si ça te dit. Puis tu iras le voir. » Voilà. Donc il est allé voir Pierre Taconnet, que vous connaissez bien.
Je connais Patrice, ouais, avec son fils. Il m'a aidé à écrire ce livre.
Voilà, son fils. Donc j'étais encore au conservatoire et il a parlé de moi et Pierre lui a dit « il n'a qu'à venir ici après le conservatoire ». Donc je suis allé pendant un an, chaque fois que j'allais au conservatoire, après le conservatoire, je m'asseyais sur une chaise devant lui, je ne parlais pas beaucoup et je le regardais travailler. Lui, il parlait beaucoup par contre, alors ça c'était bien parce qu'il n'avait pas besoin de me fatiguer. Et donc pendant un an, comme ça, je suis resté. Puis au bout d'un an, il m'a dit « écoute, je vois que tu viens souvent, là, ça a l'air de te plaire, ça te dirait de devenir apprenti ?» Ah ouais, j'ai dit ouais. Donc je suis rentré comme ça chez lui en 73 et puis ça ne s'est jamais démenti. Donc je suis resté 12 ans chez eux et en 85, j'ai ouvert mon atelier.
Avec Patrice aussi à côté.
J'ai travaillé avec Patrice en face de moi pendant les 12 années. Voilà. Et ça s'est fait comme ça. Je n'avais pas une aptitude au départ à devenir luthier. J'aurais plutôt été musicien, mais j'étais comme beaucoup de jeunes. C'est toujours pareil. Hein. Quand on a 15 ans, 16 ans, on ne sait pas trop ce qu'on veut vraiment faire.
Parce que c'est un travail incroyablement solitaire. Oboïste, c'est un musicien d'abord et en premier lieu d'orchestre. Donc là, on change complètement en termes de psychologie. Est-ce que vous aviez déjà conscience que...
Non, je n'avais pas conscience de tout ça. Mais oboïste, ça peut être aussi un soliste. Hein. Il y a des oboïstes solistes.
Très grand oboïste.
Si j'avais été oboïste, j'aurais rêvé d'être soliste. Mais bon, il ne faut pas être prétentieux non plus. Non, je ne me suis pas trop posé la question. Ça s'est présenté comme ça. Pendant presque un an, j'étais tout seul à l'établi. Patrice est arrivé qu'un an après. Donc pendant un an, j'étais tout seul et Pierre était dans l'atelier devant. Donc effectivement, j'ai eu beaucoup de moments de solitude tout seul dans cet atelier. Puis Patrice est arrivé et là, Patrice c'est quand même quelqu'un de très, très vivant. Voilà, on a échangé pendant une douzaine d'années ensemble. On est comme des frères, quoi. Même maintenant, on se voit toujours.
Gilles Brahim, vous êtes restaurateur, vous fabriquez des instruments. Comment ça se passe une commande? Lorsqu'un musicien vient vous voir, est-ce qu'il vous dit « je voudrais que vous me fassiez un violon » Oui, très bien, mais quel violon? Est-ce que vous n'avez pas envie de lui dire « mais qui êtes-vous d'abord »
Non, ça ne se fait pas comme ça. Ils ne viennent pas acheter un costume en général. Ils ont entendu parler de vous ou ils vous connaissent et ils vous disent « j'aimerais bien que tu me fasses un violon ».
Oui, mais lequel? Mais comment?
Le violon que vous allez lui faire. Il ne pose pas plus de questions que ça. Enfin, plus d'exigences que ça. Et petit à petit, généralement, il vient régulièrement, il vient voir comment ça se passe et tout. Et puis voilà, il y a un lien qui se fait entre le luthier et le musicien. Et à la fin, eh bien, on met le violon, on règle le violon, on le met en bonne résonance avec les musiciens. Voilà.
Donc on ne crée pas un violon pour un artiste en particulier?
Mais quelque part si, un petit peu, parce qu'il y a la collaboration qui se fait pendant la construction, mais c'est une collaboration au départ un peu l'artisan et puis le donneur d'ordre, mais lui ne travaille pas. La collaboration vraiment effective, elle se fait à la fin quand l'instrument commence à être joué et que là on travaille sur du réglage sonore.
Là, d'accord, là il y a vraiment une recherche de couleurs, une recherche de timbre.
Là il y a un réel échange.
D'accord. Célia, vous avez également, là évidemment, le piano vous est donné. Donné entre guillemets.
Oui.
Il y a deux possibilités, enfin il y en a même beaucoup plus, mais disons qu'il y a deux possibilités. J'ai souvent constaté que les pianistes avaient parfois des exigences remarquables en fonction des répertoires, en fonction de ce qu'ils voulaient jouer et la façon du toucher, ce qu'on appelle aussi le travail, l'harmonisation, l'accord, etc. D'autres pianistes n'ont absolument aucune exigence, ils prennent peut-être comme vous les pianos, et lorsqu'on leur demande quel type de piano voudriez-vous, eh bien ils répondent généralement « je m'en contrefiche du moment qu'il est bien accordé, moi tout ce que je veux, c'est faire le son moi-même ».
Oui, moi je suis plutôt...
Deuxième solution.
Ouais, je suis plutôt comme ça. Après, c'est génial quand on rencontre une Rolls, hein, c'est clair. Mais j'aime bien aussi rencontrer des pianos qui me laissent façonner le son. C'est vrai qu'il y a des pianos qui ont des identités tellement fortes que du coup, on n'a pas d'autre choix que de se marier dans ce qui est déjà là.
Mais un piano peut-il tout jouer? Vous me direz, ça dépend du pianiste. Bah, non, mais ce n'est pas la réponse.
Il y a des pianos qui peuvent tout jouer et il y a des pianos qui sont géniaux dans des répertoires et vraiment pas adaptés à d'autres. C'est très bizarre. C'est très bizarre.
C'est-à-dire, développer un exemple, peut-être.
Bah, il y a des pianos que j'ai pu jouer où je me suis dit, tiens, là-dessus, ce serait formidable de jouer la musique française. Et par contre, de la musique romantique allemande, voire russe, ça n'irait pas du tout parce qu'il est trop léger, il est trop clair. Et du coup, il manquera de profondeur. L'inverse m'est arrivé aussi, de rencontrer des pianos qui étaient magnifiques, genre de faire quelques notes de Schubert ou de Schumann dessus, c'était waouh, trop beau. Et de tenter du Ravel après, c'est inadapté. Enfin vraiment, la rencontre du troisième type, ça marche pas. Voilà, donc ça existe dans les deux sens.
Alors peut-être pas pour un concert, mais pour un disque, est-ce qu'il y a pas nécessité aussi d'avoir un réglage ? C'est-à-dire on retire le clavier et puis on fait une harmonisation, c'est-à-dire qu'on peut piquer ce qu'on appelle les feutres ou bien les durcir pour avoir des sonorités différentes.
Oui, alors après moi je partirais aussi du principe de choisir un piano qui matche déjà avec le répertoire qu'on enregistre au disque. Parce que si on veut modifier un piano pour le faire matcher dans un programme, je trouve ça un peu dommage, mais ce serait possible. Moi, en tout cas, dans les disques que j'ai faits jusqu'ici, j'ai toujours pris soin d'être sûr que le piano sur lequel j'allais enregistrer allait bien matcher avec le répertoire. Et du coup, ça s'est toujours bien passé, parce que je savais vraiment avec quel partenaire j'allais... tous les partenaires ne sont pas bons pour aller à l'église ou au bal, hein, donc voilà, il faut juste savoir avec qui on sort.
et dans le public, parce que tout le monde ne lit pas de la même façon, hein, y en a qui peuvent lire un texte et qui sont incapables d'en lire un autre. Bon. Et au niveau de l'écoute
du public, ah bah, quand on prépare un programme de récital, oui, il faut le penser. Alors, quand on sait dans quel cadre on le donne, déjà c'est super parce que. Il y a des cadres qui nous font savoir un peu quel type de public on va rencontrer. Moi, j'essaye toujours d'avoir un programme qui va pouvoir parler à des mélomanes et aussi à des non-mélomanes, à des novices. Et surtout, moi, je parle à mes concerts. On n'est plus je présente et je parle de ce que je joue parce qu'on n'est plus à une... Il y a trop de cultures différentes aujourd'hui. On n'est plus dans une société où les gens connaissent tout ce qui est Beethoven, qui est Debussy, alors encore moins qui est Marie-Jaël. Et puis même moi, ça me met dans le mood de savoir qu'à ce moment-là, bah, la guerre éclate, à ce moment-là, il se fait larguer, à ce moment-là, son mari vient de mourir. Et bien en fait, ça donne vachement de clés d'écoute pour apprécier une œuvre. Et surtout, ça crée une écoute active. Ça reconnecte les gens avec le Absolument. Fait que la musique, c'est un langage d'émotion. Et parfois, surtout, la musique classique...
Elle fait partie de la vie, surtout.
Ouais.
Elle est connectée à tout ce que l'on ressent.
Et la musique classique a tellement cette image de langage de musique savante que souvent, les gens se disent « Oh là là, mais moi, j'y connais rien, je vais pas pouvoir apprécier. » Alors que c'est pas vrai.
Célia, ça peut être absolument savant et être en même temps d'une extraordinaire compréhension.
Exactement, c'est accessible.
Une passion de Bach, ça peut être très savant et en même temps totalement accessible.
Très immédiat, mais tout à fait. Mais voilà, mais du coup, souvent, ça brise un peu le quatrième mur dont parlent souvent les comédiens, que le musicien qui est souvent mutique, tout d'un coup, se met à ouvrir la bouche, se met à dire qu'est-ce que lui ressent dans ce répertoire, pourquoi il choisit ça. En fait, chacun fait comme il veut, mais moi, en tout cas, ça, je trouve que j'y gagne, le répertoire, me semble, y gagne, et le public, souvent, a l'air content de ça, donc je fais ça.
Oui, et je pense aussi qu'il y a aussi cette dimension qu'on peut avoir en littérature. Lorsqu'on parle à quelqu'un qui ne connaît pas du tout très peu la littérature, on lui parle des mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Oh là là. Deux tomes dans la Pléiade, mon Dieu, quelle horreur. Et on commence à lire simplement les toutes premières pages où il décrit son enfance dans la région parisienne, la propriété où il était, mais c'est absolument prodigieux. C'est-à-dire qu'il suffit, l'auditeur simplement ferme les yeux et il est devant ce paysage. Et là, on enclenche quelque chose.
Une maison de jardinier cachée parmi des collines couvertes de bois. Le terrain inégal et sablonneux, dépendant de cette maison, n'était qu'un verger sauvage, au bout duquel se trouvaient une ravine et un taillis de châtaigniers. Cet étroit espace me parut propre à renfermer mes longues espérances. Les arbres que j'y ai plantés prospèrent. Ils sont encore si petits que je leur donne de l'ombre quand je me déplace entre eux et le soleil. Un jour, en me rendant cette ombre, ils protégeront mes vieux ans, comme j'ai protégé leur jeunesse.
C'est exactement ça qu'il faut faire, n'est-ce pas, Guy Reichenmann ?
Ah oui, non, mais tout à fait, il y a des textes formidables. Cela dit, il y a également des textes anciens qui sont quand même relativement difficiles à digérer. Hein. C'est pas, tout n'est pas brillantissime. Mais la littérature actuelle, surtout avec ce que l'on appelle la New Romance, est relativement, enfin, je ne vais pas me faire que des amis, mais c'est relativement faible au niveau de l'expression et du vocabulaire. Oui. Y a une auteure, je ne citerai pas, qui disait « Moi, j'écris pour ma mère qui a appris à lire à 25 ans. » Mmh. Et ça marche.
Mais on peut en même temps avoir une écriture très simple et extraordinairement riche. C'est pas antinomique. Je pense pas à quelqu'un, par exemple, comme Marcel Aimé. Je pense à quelqu'un comme Marcel Pagnol.
On n'est pas sur Pagnol. Oui, les châteaux et les gloires. Oui, non, bien sûr, bien entendu. Mais là, on est
au sommet.
Je marchais derrière une voiture noire dont les roues étaient si hautes que je voyais les sabots des chevaux. J'étais vêtu de noir et la main du petit Paul serrait la mienne de toutes ses forces. On emportait notre mère pour toujours. Pendant des années, jusqu'à l'âge d'homme, nous n'avons jamais eu le courage de parler d'elle. Puis le petit Paul est devenu très grand. Il portait une barbe de soie. Dans les collines de l'Étoile, qu'il n'a jamais voulu quitter, il menait son troupeau de chèvres. Il fut le dernier chevrier de Virgile. Mais à 30 ans, il disparut à son tour. Mon cher Lily l'attendait depuis des années au petit cimetière de la Treille, sous un carré d'immortels. En 1917, dans une noire forêt du Nord, une balle en plein front avait tranché sa jeune vie, et il était tombé sur des touffes de plantes froides dont il ne savait pas les noms. Telle est la vie des hommes. Quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants.
Donc on peut avoir là aussi une écriture fort simple et tout à fait compréhensible par tout le monde.
Il y a du vocabulaire quand même.
Il y a du vocabulaire. D'ailleurs, le petit Marcel collectionnait les mots. Il en faisait des petits carnets et puis il trouvait les mots pour leur beauté et pour leur signification.
On le fait toujours d'ailleurs. Moi, je collectionne des mots, je lis des mots, je les note et je m'amuse. Allez, dernièrement, dans mon dernier, j'ai mis des mots que je ne connaissais pas et alors ça va entre guillemets. Bien sûr, je mets une astérisque en disant voilà, ça veut dire ça. Mais c'est très amusant de faire ça.
Oui.
Par exemple, l'intimité, l'extimité, l'extimité, ben c'est l'inverse de l'intimité. Alors, bizarrement, je ne connaissais pas. Et je parle de l'extimité, ben c'est l'inverse de l'intimité. C'est rien de plus logique.
Ouais, ouais.
Dernière question peut-être, Célia Onetto Ben Saïd. Vous avez enregistré un disque absolument magnifique avec Olivia Gay. Nous allons d'ailleurs vous retrouver ce soir au festival Cap Ferré Music Festival, qui est paru chez Fuga Libera. Donc là, il y a vraiment une attirance incroyable pour la nature, pour la valorisation de la nature, ou plus exactement, pour faire en sorte que les musiciens, que les artistes, mais que le public, en fait, comprennent la dimension et l'importance de la nature, son influence sur la musique. Comment avez-vous abordé ce répertoire ? C'est la première fois que vous abordez notamment des œuvres aussi différentes. Alors, vous n'avez pas participé à tout le disque,
oui.
Mais quel est votre état d'esprit après avoir enregistré ce disque, et même avant d'ailleurs ?
Bah, ce qui est génial, c'est qu'il y a une vraie narration dans ce disque. Hein. C'est Olivia, donc la violoncelliste, pour le coup, elle s'est racontée une histoire aussi hein, dans ce programme, en partant d'une graine d'épicéa qui tombait de son arbre, qui tout d'un coup trouvait une terre, l'arbre poussait. Et donc il y a la nature qui pousse autour de cet arbre. Et puis un jour, cet arbre est choisi par un luthier qui va constituer une partie d'un instrument avec ce bois. Et donc, comment j'abordais ça ? Olivia a enregistré une partie avec l'orchestre de Cannes, une partie avec piano dans ce disque. Et au concert, en fait, on fait tout le programme qu'elle a fait avec l'orchestre, on le fait au piano aussi. Donc du coup, je parcours un peu tout ce programme avec elle, ça fait vraiment sens. C'est un programme qui évoque du coup la nature, surtout la nature des forêts. Donc la nature des forêts, ça va donner une suite de paupères qui s'appelle Imwalde. Il y a une pièce de Dvorak qui s'appelle
dans la forêt.
Voilà, il y a une pièce de Camille Pépin dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle Gris Brume, qui là c'est plutôt
une atmosphère.
Ouais, voire un orage. Il y a évidemment les papillons de Gabriel Fauré. Donc, comment j'aborde ça ? C'est vraiment comme le figuralisme dans la poésie où on retrouve les petits oiseaux dans les aigus du piano. Eh bien, c'est exactement
pareil. Vous savez que vous connaissez l'anecdote des papillons de Fauré. En vérité, Fauré l'a composé. On lui a demandé cette pièce pour violoncelle et piano. Et il a noté comme titre, je veux que ça s'appelle « Pièce pour violoncelle et piano ». Et son éditeur a refusé. Vous connaissez cette anecdote ?
Non,
peut-être.
Je la connaissais.
Et l'éditeur, évidemment, a dit c'est pas possible, c'est pas vendeur.
Bah
et
oui.
Donc, il a appelé Papillon, en oubliant d'en parler à Fauré. Lorsque Fauré a reçu la partition, il a envoyé un petit mot à son éditeur en disant vous avez eu tout à fait raison. Papillon ou mouche à merde, ça n'a aucune espèce d'importance.
Non, mais ce qui est sûr, c'est que dans cette partition, le violoncelle n'arrête pas, ça tricote non-stop. Et en plus, ça tricote dans des nuances souvent piano, voire pianissimo. Donc, en tout cas, peut-être que Fauré s'en fichait du titre, mais en tout cas, ça peut complètement être des bruits d'ailes, quoi, c'est sûr.
C'est comme le vol du bourdon, finalement.
Oui, alors le vol du bourdon est un tout petit peu plus musclé, mais ouais, c'est un peu le même genre. Mais ça me fait penser l'anecdote au prélude de Debussy, où Debussy marque le titre à la fin juste pour suggérer. Mais il veut surtout pas que le titre prenne trop de place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit « oui, je joue les collines d'Anna Capri », on dit pas « je joue le septième prélude du deuxième ». Alors, on donne les titres. Mais donc voilà, donc toutes ces pièces, c'est super inspirant d'avoir un sujet si fort à défendre. Et puis, ce qui est génial en plus, c'est que c'est un programme de concert qu'on donne vraiment au milieu de la forêt, dans le cadre de la tournée qu'Olivia Gay fait. La forêt, souvent, on croit que ça va être très sec parce qu'il n'y a pas de mur derrière nous. C'est vraiment une scène complètement ouverte. Et finalement, tout ce bois qui nous entoure fait que ça sonne souvent extrêmement bien, quoi. C'est un auditorium à ciel ouvert.
Deux instruments faits avec du bois qui résonnent dans du bois.
Exactement, et qui évoquent un répertoire de bois. On est 100% bois.
Célia, petite question redoutable. Dernière, je vous promets. Pour qui jouez-vous ? Pour vous, pour le compositeur, pour la musique ? Pour qui jouez-vous ?
Pour la musique.
C'est vaste.
Pour les œuvres, pour les compositeurs, alors, on va dire. Et puis, en fait, moi, j'ai envie de faire, d'être un passage entre le compositeur, ou bien la partition, et le public. Sans l'interprète, il n'y a pas ce passage. Et donc, je ne joue pas que pour le public, je joue quand même aussi pour la personne qui a composé.
Gilles Brahim, pour qui faites-vous un instrument de musique ? Pour être joué ? Pour des musiciens, bien sûr, pour des interprètes, mais au-delà, peut-être ?
Pour la musique.
Vous aussi.
Oui.
Et Guy Reichenmann, évidemment, pour qui écrivez-vous ?
Alors, moi j'écris pour moi. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Même le scorpion pleure », je l'ai envoyé à mon éditeur. Mon éditeur, le patron m'appelle, il me dit « Écoute, je comprends rien à ton texte ». Alors, il faut dire que j'avais invité l'astrologie, la géobiologie, les régressions en conscience modifiée. J'avais fait plein de choses quand même un petit peu hard, entre guillemets. Et je lui ai dit, c'est pas grave, je garde mon texte et puis je verrai ce que j'en ferai. 3 jours après, il me rappelle, il dit, bon, on le prend. Bon, voilà. Donc ça va, j'écris pour moi.
C'est bien, c'est une thérapie, je ne sais pas si on peut appeler ça une thérapie, mais en tout cas, c'est un bonheur de vivre et en tout cas, c'est un bonheur de vous lire. Écoutez, tous les trois, merci infiniment pour ce moment de partage autour de la forêt, de l'écriture, de la musique et du façonnage d'instruments. Bref, nous restons à la fois dans le spirituel et le matériel, mais que de belles choses à voir, à entendre et à lire. Je voudrais vous remercier donc tous les trois, Gilles Brahem, Guy Reichenmann et Célia Onetto-Bensaïd. Également, remercier à la technique Lorraine Carpentier, Théo Forstendischer, Hugues Malot et puis Jean-Michel Ardouin. Merci à tous.
Merci.
Merci.